Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Bruno Dussaussois.
Bonjour, c'est à un voyage que je vous convie dans cette émission. Un voyage au pays des kiwis, ces drôles d'oiseaux qui ne volent pas. Des moutons, des geysers, des fougères, des volcans au nord sur l'île fumante, des montagnes au sud sur l'île de Jade, des hivers et des étés doux, des rivières et des lacs. Vous l'aurez deviné, nous partons en Nouvelle-Zélande. Cet archipel du Pacifique, peuplé vers le Xe siècle par les ancêtres des Maoris, venus par la mer des îles Fidji, Tonga, Samoa, à la même superficie que le Japon. Un archipel que les Maoris ont appelé le pays aux longs nuages blancs et qui compte aujourd'hui plus de 4 millions d'habitants. C'est un pays où le rugby est roi depuis son importation d'Angleterre à la fin du 19e siècle. Un pays dominion de la couronne britannique dont le chef d'État est donc une reine, Elisabeth II. Un pays dont les femmes furent parmi les premières à obtenir le droit de vote. Un pays enfin qui accueille pour la deuxième fois de son histoire la Coupe du monde de rugby du 9 septembre au 23 octobre 2011. Pour parler de ce pays et du rapport quasi fusionnel que ses habitants entretiennent avec le rugby, je reçois le journaliste Richard Esco. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez ces jours-ci Rugbyland, en bon français le pays du rugby, aux éditions Philippe Ray. Responsable des pages rugby à l'équipe, vous vous êtes rendu à de nombreuses reprises en Nouvelle-Zélande. Ce livre est donc, en somme, un carnet de voyage au pluriel, en 45 chapitres courts et enlevés, à l'image des passes rapides et précises, caractéristiques du jeu All Blacks. All Blacks, ça y est, le mot est lâché. C'est, comme chacun sait, le surnom de l'équipe de rugby néo-zélandaise. Un surnom qui s'est imposé avec la force de l'évidence. De tout temps, les Néo-Zélandais jouent en noir, on les appelle donc logiquement les All Blacks. Or, non seulement leur maillot n'était pas noir à l'origine, mais surtout, ce surnom est le résultat d'un malentendu. Alors pour y voir clair, il faut remonter à l'année 1905, lors de la première tournée des Néo-Zélandais en Angleterre.
Et tout à fait. Ils jouent avec un maillot noir. Le précédent était bleu nuit. Ce maillot a été voulu par un Maori. Et ils jouent tous comme des arrières. Ils sont virevoltants, rapides, inspirés. Et le journaliste écrit « They are all backs ». Ce sont tous des arrières. Et le correcteur, quand il reçoit la copie, voit en même temps la photo de ces hommes au maillot noir, se dit « Il y a une faute de frappe. C'est pas all backs, c'est all blacks ». Et voilà comment la légende devient plus forte que la réalité.
Et le passage à la couleur noire, donc en 1905, est, je crois, dû à la volonté d'un homme, un certain Tamati Ellison.
C'est un jeune joueur talentueux, un des premiers Maoris, celui qui réussira pour la première fois l'intégration d'un Maori dans une société anglo-saxonne, et ça se fera à travers le rugby, nous aurons l'occasion d'en parler. Il décide que ce maillot devrait être noir parce que le drapeau des All Blacks, le drapeau de la nation Maori, est noir, blanc et rouge. Vous l'avez compris, noir, blanc avec la fougère argentée, et le rouge, c'est l'homme qu'on met dans le maillot.
Il disait à propos de ce noir, cette obscure clarté qui tombe des étoiles.
Et voilà, et la poésie nous ramène à la Nouvelle-Zélande, comme votre très belle introduction.
Mais l'histoire d'amour entre la Nouvelle-Zélande et le rugby a commencé avant 1905, dès 1870, soit 7 ans après la naissance véritable du rugby et 1 an avant la première rencontre internationale entre l'Angleterre et l'Écosse. Un certain Charles Munro importe le rugby en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Charles Munro et comment a-t-il réussi à imposer ce jeu dans ce pays ?
Il faut savoir que les jeunes nations, c'est le cas de la Nouvelle-Zélande, sont à la recherche de jeunes jeux, de jeux qui pourraient leur appartenir, de jeux dont ils pourraient s'accueillir. Accaparer les règles, le savoir-faire. Et Munro a cette idée de génie, il est au collège en Angleterre et il revient avec un espèce de jeu de balle, une balle vaguement ovale, ovoïde dirons-nous, un jeu assez viril, un jeu où il faut s'engager, se battre un peu et ça ressemble bien à la lutte des anglo-saxons pour s'imposer en terre néo-zélandaise, au pays du long nuage blanc. Et quelque part, bah voilà, un coup de génie... Je ne pense pas qu'il faille aller chercher plus loin, c'est que ça correspondait à ce moment-là à une vraie demande.
Alors au chapitre historique toujours, l'histoire du Kaikoura est étroitement mêlée à celle de la Nouvelle-Zélande. Alors le Kaikoura, c'est le nom de ce navire sur lequel embarquèrent en 1888 de jeunes Britanniques pour disputer une série de compétitions sportives en Australasie. En un mot, c'est une tournée comme on n'en fait plus de nos jours, mêlant cricket, aviron et rugby à 15. Racontez-nous en deux mots cette épopée.
Bah écoutez, le cricket est le grand sport de l'hémisphère sud. Il n'y a pas de football, il n'y a toujours pas de rugby, ou très peu. Il y a une espèce de jeu, le foot australien, qui s'appelle l'Australian Rules, qui est joué à Melbourne. Enfin, tout ça est assez anecdotique. Et un promoteur, un grand capitaine de cricket, un promoteur décide d'aller organiser, un peu comme on fait en boxe, une série de matchs, une série de combats, et donc choisit des bons joueurs du nord de l'Angleterre, des universitaires, mais des hommes un peu matures quand même, pour aller vivre quasiment presque une année dans l'hémisphère sud, si on compte le voyage en bateau. Ils vont jouer en Nouvelle-Zélande, en Australie, revenir en Nouvelle-Zélande, et plein de péripéties. Et c'est à travers cette tournée que les Néo-Zélandais vont découvrir les subtilités du rugby.
D'ailleurs, le capitaine des premiers All Blacks en 1905-1906, Dave Gallagher, qui est mort au front en Belgique pendant la Grande Guerre, il admit un jour l'influence décisive qu'eut cette tournée sur l'évolution du jeu néo-zélandais. Parlez-nous un peu des caractéristiques de ce jeu.
Alors, le jeu néo-zélandais, c'est un jeu qui est fait de vitesse, mais pas uniquement la vitesse de déplacement. On le sait, l'esprit va plus vite que les jambes. La vitesse à laquelle on peut déplacer la balle avec les mains. C'est un jeu de placement. Les joueurs se placent de façon à ce qu'ils créent le désordre sur le terrain, à ce qu'ils créent un surnombre offensif et défensif. C'est un jeu de placement très intelligent. Et pour finir, c'est un jeu de conquête de balle. Plus longtemps vous avez le ballon dans vos mains, eh bien moins l'adversaire est en position de marquer puisque c'est vous qui avez la balle. Donc le rythme, la position et la possession du ballon, depuis toujours, depuis un siècle et demi, les All Blacks sont fidèles à ces principes-là.
Ce triptyque dont vous avez parlé, donc je rappelle placement, conquête, rythme, dites la règle des 3 P en anglais, position, possession, pace, repose en fait, a été mise au point dans les années 1950 par Charlie Saxton et Fred Allen, qui sont les véritables inventeurs du jeu néo-zélandais moderne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux personnages ?
Ouais, je les ai rencontrés tous les deux, des personnages virevoltants, le visage sec, émacié. Quand je dis virevoltants, c'est qu'ils ne tiennent jamais en place. Ce sont des vrais chercheurs et on voit dans leur visage, ce sont des aigles. Imaginez deux visages d'aigles, ils étaient demi de mêlée, demi d'ouverture, ils ont créé le jeu All Black. Mais surtout, ils ont créé le jeu All Black en se référant à ce qui avait été fait avant eux. La force des All Blacks, c'est d'être toujours très très près de leur passé et de ne jamais le renier. Ça, c'est assez remarquable.
Parlant du jeu néo-zélandais, on ne peut manquer de le comparer au jeu français, au fameux French Flair. Alors, quelles sont les ressemblances et les différences de jeu entre les Bleus et les All Blacks ?
Des ressemblances, il n'y en a pas beaucoup. Les Français ont une capacité à réussir quelque chose à partir de rien, alors que les All Blacks ont une capacité à garder leur jeu pendant tout un match. Ce qui fait que parfois, quand l'inspiration fait la différence, quand la pression est trop dure, eh bien on voit que les Français sont capables de s'en sortir avec beaucoup plus de facilité. J'en veux pour témoignage la victoire de l'équipe de France en 1999 en Coupe du Monde et la victoire de l'équipe de France, toujours contre les All Blacks, en 2007 en quart de finale. Deux moments qui ont coupé les ailes des Kiwis et qui ont empêché les All Blacks de devenir champions du monde. Ça veut quand même dire quelque chose. Cette équipe de France est respectée dans l'hémisphère sud, ce qui peut nous donner un petit atout pour cette Coupe du Monde à venir.
Je voudrais citer un passage de votre livre justement sur le secret des All Blacks. Le sens collectif, 15 évoluant comme un seul, cette modernité à toujours revenir aux vertus du passé, ce balancier qui oscille d'un bord du terrain à l'autre dans le sens de la largeur, étirant les lignes adverses jusqu'à ce qu'elles cassent, cette façon qu'ils ont de s'engouffrer dans l'espace soudain laissé béant, comme s'ils étaient plus nombreux que leurs adversaires aspirés dans un goulot. Notre savoir-faire, vous parlez ici du jeu français, plus désordonné, nous l'appelons French Flair. Et il n'y a pas d'autre solution que de briser les carcans, de tenter l'impossible pour l'emporter, ou du moins finir en beauté. Les All Blacks, eux, s'assurent de la posture inverse, calés sur la conviction qu'il n'y a pas de salut possible hors du schéma tactique accepté et validé par tous. Ils n'ont pas changé de point de vue en un siècle. On devine au fil des pages une admiration réciproque entre les joueurs néo-zélandais et français. Une certaine forme de respect en tout cas.
Tout à fait. Là-bas, vous savez, des joueurs comme Serge Blanco, comme André Boniface, comme Pierre Villepreux, comme Philippe Sella.
Serge Blanco et son panache bleu.
Voilà. Et puis Jean-Pierre Rive avec son panache blond.
Casque d'or.
Voilà. Tous ces joueurs-là sont au panthéon de la Nouvelle-Zélande. Et puis la France, c'est, vous l'avez dit en reprenant ce passage-là, c'est l'opposé de ce que sont les All Blacks. Les All Blacks sont des joueurs de devoir, sont des joueurs qui restent dans les schémas qui leur sont imposés, parce que le rugby est davantage qu'un jeu, pour eux c'est une religion et on ne sort pas du dogme, aussi subtil et brillant soit-il. Alors que les Français, bah voilà, dans la foulée de Rimbaud ou de Villon, eh bien, voilà, sont capables de tout briser, de briser les carcans, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire.
Au Panthéon néo-zélandais ne figure qu'un seul joueur de rugby, l'ancien pilier de mêlée Wilson Wainwright, aux côtés de l'alpiniste Edmund Hillary et puis du marin Peter Blake. Vous pouvez nous parler un peu de ce joueur qui est, je crois, une légende vivante au pays des All Blacks.
Alors moi, je voudrais profiter de cette occasion, effectivement, je pourrais vous parler de Wilson Wainwright. La rencontre avec lui occupe un très long et très beau chapitre au début du livre. Ce qui est surtout frappant chez les Néo-Zélandais, c'est la gentillesse avec laquelle ils vous reçoivent. C'est le bonheur qu'ils ont de voir quelqu'un arrivant de l'autre bout du monde, de la France, pays qu'ils admirent, et quelqu'un qui a envie d'en savoir un peu plus sur leur pays, sur leur nation, sur leur mythe, sur ceux qui les habitent. Et Wilson Wainwright, comme beaucoup d'autres, m'a vraiment ouvert sa porte longuement, et cette qualité de discussion, cette qualité d'échange, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, et les multiples personnages qu'on retrouve dans ce livre sont de cet acabit-là, des gens avec un cœur énorme, avec une gentillesse, avec une profondeur de réflexion, et c'est sans doute pour ça que j'ai souhaité écrire ce livre et raconter les différents voyages qui m'ont mené en Nouvelle-Zélande.
Et justement, cet homme, Wilson Wainwright, on le sent un petit peu, désabusé sur le nouveau rugby. Je crois, pour lui, en somme, pour résumer, le rugby était un jeu et il dit c'est devenu un métier. Est-ce que vous allez dans son sens ou pour vous, le professionnalisme d'aujourd'hui n'a pas tué, disons, toutes les valeurs du rugby ?
Je suis devenu journaliste en 1985, j'entendais les anciens journalistes me dire « Oh, c'était mieux avant ». Et puis je me suis dit, oulala, moi quand je vais commencer à vieillir, j'ai 52 ans, j'en avais 25, je me suis dit, je vais surtout pas leur dire que c'était mieux avant, à tous les jeunes qui viendront à mes côtés, parce que je pense que chaque époque doit être vécue et ne peut être comprise que par ceux qui l'ont vécue. Et forcément, Wilson Wainwright, qui est aujourd'hui à l'hiver de sa vie, voit tous les bons moments qu'il a vécu et a du mal à s'imaginer que les jeunes joueurs d'aujourd'hui vivent les mêmes, ou en tout cas, s'ils en vivent, ils sont différents, mais ils sont à eux. Et moi, je vois dans le rugby une évolution, bien sûr, le professionnalisme en est une, mais je pense que le joueur de rugby reste un être profondément riche et très ouvert, parce qu'il ne peut pas y avoir d'équipe sans partage.
Wilson Wainwright est une légende vivante encore. Autre star planétaire cette fois, Jonah Lomu. Parlez-nous un petit peu de ce personnage, parce qu'il est très célèbre, mais finalement, il a quand même un passé, un parcours qui est assez extraordinaire.
Ah oui, bah alors ça, je ne vais pas vous le raconter.
Non, pas tout, évidemment.
Parce que c'est le cœur de mon livre, mais...
Oui, parce que je précise que vous lui consacrez quand même pas moins de 5 chapitres.
C'est ça.
Simplement...
Non, mais j'entends bien, mais c'est un joueur, c'est le premier grand joueur, la première figure mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit Jonah Lomu, on l'associe au rugby. Il n'y a pas d'équivalent, même Johnny Wilkinson ou Sébastien Chabal restent des phénomènes beaucoup plus restreints dans leur luminosité. Lomu, il a véritablement éclairé le rugby comme aucun autre joueur avant lui. Et la belle histoire de Jonah Lomu, c'est, je pourrais l'associer à celle de Zinedine Zidane. C'est celle d'une famille qui arrive, une famille de l'immigration, tongienne, qui arrive en Nouvelle-Zélande pour chercher fortune. Et chercher fortune, quand on est pauvre, c'est juste trouver un travail. Et lui se retrouve dans une banlieue difficile, au milieu de gangs, au milieu de gens qui ne lui veulent pas obligatoirement du bien. Et c'est grâce au sport, Zinedine Zidane avec le football, Jonah Lomu avec le rugby, c'est grâce au sport qu'il va devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un grand personnage du sport. Et pour les Néo-Zélandais, bien au-delà du sport, un ambassadeur de leur pays.
Et c'était un joueur qui était, parce qu'il a aujourd'hui raccroché les crampons, c'était un joueur qui était parmi les mieux payés, je crois. Vous parlez dans votre livre des relations entre les All Blacks et l'argent. C'était un sujet tabou.
Ça l'est toujours. Mais parce que quand on parle de sport, en règle générale, on n'aime pas parler d'argent. L'argent, c'est bon pour la bourse. L'argent, c'est bon pour les grands directeurs d'entreprise. L'argent, ça colle pas au monde du sport. Le monde du sport, vous savez, c'est ce qui nous reste de plus pur aujourd'hui dans une société quand même relativement polluée. C'est ce qui nous reste de plus pur. C'est ce qui nous reste un petit peu des courses antiques vers le soleil. Et c'est pour ça qu'on déteste le dopage en sport. Vous savez, le dopage en sport, les fleurs du mal de Baudelaire, c'était jamais que du dopage poétique. En musique, dans les arts, un peu partout, la drogue, les produits festifs existent. En sport, c'est le dopage. Et on n'aime pas parler de dopage parce qu'on aimerait que le sport reste pur. Tout le monde sur la même ligne.
Et il en va,
tout le monde à égalité.
Il en va de même donc pour l'argent.
Mais oui, parce que l'argent, pour moi, je l'ai ressenti en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas une grande nation. Ce n'est pas une nation économiquement puissante. Les Néo-Zélandais sont nulle part sur la carte du monde. Et le sport reste leur moyen d'expression. Alors, vous rajoutez de l'argent à ça, pour eux, ça n'est pas une finalité, ça n'est qu'un levier. Mais il est clair, et je l'écris dans ce livre-là, que les All Blacks ont été les premiers professionnels avant l'heure. Et c'est vrai que bon, j'émiette un peu le mythe.
Jonah Lomu, vous l'avez rappelé, est d'origine tongienne, c'est-à-dire des îles de Polynésie. Beaucoup de Polynésiens qui émigrent en Nouvelle-Zélande voient dans le rugby un espoir, une planche de salut, une façon de s'intégrer dans la société. Le rugby, au fond, joue un peu un rôle d'intégration sociale en Nouvelle-Zélande.
Comme le football et le basket en France, effectivement. C'est ce qui permet à des enfants venus de l'immigration de pouvoir gagner de quoi nourrir leur famille. Parce qu'il faut bien entendre que l'argent, les salaires que touchent les rugbymen professionnels d'origine polynésienne, cet argent sert à nourrir la famille. Il est envoyé au pays, il est envoyé dans le clan, dans le village. Et ces joueurs-là sont la fierté de leur famille, quelque chose que l'on retrouve dans les sociétés occidentales.
Et si le rugby est facteur donc d'intégration des Polynésiens, il est en revanche facteur d'exclusion des Blancs. Ça, c'est assez étonnant, en tout cas d'un point de vue, disons, occidental, européen.
Parce qu'il y a une dimension physique dans le rugby, c'est un sport de combat, c'est un sport collectif de combat. Et la plupart des Polynésiens sont déjà matures à l'âge de 14 ans. Et c'est vrai que quand ils jouent avec des petits anglo-saxons du même âge, qui sont encore frêles et pas du tout bâtis, ça donne des chocs terribles. Et moi, je comprends les parents qui poussent leurs enfants à jouer au basket ou au football. Et d'ailleurs, le football, il y a quelque temps, a dépassé en nombre de licenciés chez les jeunes le rugby, ce qui a été un véritable, alors je ne dirais pas séisme parce que ça serait malheureux, mais en tout cas, ça a été un choc, oui, pour les fans de rugby.
Mais diriez-vous que le rugby en Nouvelle-Zélande est devenu la chasse gardée, si je puis dire, des Polynésiens ?
Oui, parce que ce sont les meilleurs joueurs. Ils sont physiquement très forts, ils sont athlétiques, un peu comme le 100 mètres. C'est une chasse gardée aussi en athlétisme ou le basket. Et c'est vrai que les anglo-saxons, les joueurs de race blanche sont rares. Il y en a de moins en moins parce que c'est un sport excessivement physique. Et en tout cas en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que Fidjiens, Tongiens et Samoans ont trouvé un moyen d'expression dans ce sport de combat.
Nous venons de parler des Kiwis d'origine polynésienne. Ils ont une culture riche, la culture maori, dont ils sont fiers. Chaque maori, au fond, se voit comme le fils d'une longue histoire mêlée de légendes, selon laquelle chaque maori est issu d'une pirogue fondatrice. Voilà, on ne va pas raconter tout ça, vous le verrez dans le livre. Mais est-ce que, selon vous, cette culture est toujours aussi présente dans la société néo-zélandaise actuelle, évidemment chez les Maoris?
Alors, il faut d'abord reprendre l'histoire. Les Maoris arrivent d'une île très très lointaine, Hawaiki, dont on imagine que ça serait Hawaï, traversent tout l'océan Pacifique et trouvent cette île de Nouvelle-Zélande. Je crois qu'ils ont déjà plus ou moins colonisé Tonga et Samoa. Fidji, c'est une autre, je dirais, ethnie. Hein. C'est davantage mélanésien que polynésien. Et donc, ils arrivent en Nouvelle-Zélande. Et les Maoris, c'est un peu, se considèrent comme une sorte de caste à part dans le monde polynésien. Ce sont d'abord des guerriers féroces, anthropophages, durs au combat et qui ont créé une véritable mythologie de la guerre. En ce qui les concerne, eux, leur culture est vraiment à part. Elle a un cousinage avec les Samoa, vague cousinage, mais ça s'arrête là. Samoans, Tongiens, Fidjiens et Maoris sont des cousins, sont liés par un fond culturel, hein, certes, mais quand même gardent chacun leur autonomie. Et la culture maori de toutes ces cultures-là est celle qui a la plus forte profondeur, à mon avis, historique.
Ce que l'œil occidental peut percevoir de cette culture de façon la plus spectaculaire, c'est le fameux haka. Alors c'est une histoire mêlée de légendes que celle qui entoure le haka, cette danse guerrière mystérieuse que les All Blacks, hein, je rappelle, interprètent avant chaque rencontre. Alors je vais lire, si vous le permettez, un extrait de votre livre. Le haka constitue l'âme du groupe. Il soude l'individu au corps de la tribu en guerre, stigmatise la fureur meurtrière pour former une lave incandescente qui coule sur les lèvres. Les tueurs trépignent plus qu'ils ne dansent. En eux monte l'impatience, puis croît la folie meurtrière. On reconnaît les plus sanguinaires à leur corps musculeux, à la dureté de leur regard qui creuse depuis de haine au milieu d'un faciès rude, à leur calme apparent ou au contraire à leur excitation contagieuse. Et puis ça continue ainsi. Donc c'est vraiment un combat.
Écoutez, quand vous êtes face à un haka, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'en parle dans le livre, je veux dire, votre échine est parcourue de frissons. C'est un moment d'une force J'ai ressenti ça au Pays de Galles avec Land of My Father, qui est l'hymne du Pays de Galles. Le haka, moi, il m'a été chanté, hein, puisque c'est un chant chorégraphié, m'a été chanté par de jeunes étudiants.
Vous le racontez dans
le
livre.
De jeunes lycéens qui n'avaient rien de guerrier. Mais alors, leurs yeux, leur visage, le timbre de leur voix, ce cri qui monte des tripes. Je peux vous dire que quand vous avez 100 gamins en face de vous, à moins d'un mètre, qui scandent ce haka, ça vous remue les tripes, oui.
Des haka, il en existe des centaines, voire même des
milliers. C'est des vous milliers. Vous pouvez le dire. Il y a même une compétition de haka chaque année.
Et parmi ces haka, il y a le kamaté, alors qui est composé, disons, au début du 19e siècle par un chef de tribu maori. On va entendre tout de suite le kamaté. Alors, je vais vous demander évidemment une petite réaction après cette interprétation.
Alors oui, ce qui est intéressant, et je le raconte dans le livre, c'est de savoir d'où vient ce haka, vous l'avez dit, mais surtout ce qu'il représente, quel sens il faut donner aux paroles. Ça sera dans le livre, forcément. Et puis, il y a un petit clin d'œil. Personne ne sait trop à quoi se réfère le kamaté. Et c'est assez surprenant dans une société qu'on pourrait imaginer très machiste, hein, quand on entend ce chant guerrier, d'imaginer que c'est un hommage au sexe dit faible, qui n'en est rien d'ailleurs, il n'est absolument pas faible en Nouvelle-Zélande.
Cette culture, les Maoris l'ont dans le sang, ils l'exhibent même sur leur corps. Dans votre livre, vous consacrez de nombreuses pages au tatouage, partie intégrante de la culture maori. Vous avez rencontré plusieurs personnages assez fascinants, dont un tatoueur. Mais qu'est-ce que ça représente au fond, ce tatouage? On le voit, il y a des joueurs sur le terrain néo-zélandais qui sont tatoués, même parfois sur le visage.
Alors, sur le visage...
Peut-être pas chez les joueurs, mais...
Pas chez les joueurs, parce que c'est...
C'est assez mal perçu, disons-le.
Oui, et puis c'est aussi... parce que c'est la dimension tribale pure. C'est-à-dire que là, tatoué sur le visage, ça veut dire je suis chef de tribu. Aujourd'hui, les joueurs de rugby professionnels sont très très loin des tribus maoris. Ce qu'on appelle le tatouage tribal, qui est une mode en Nouvelle-Zélande qui répond à des canons très stricts. Hein. Mais dans un village, le tatouage se fait à la main et non pas électronique. Ils sont extrêmement douloureux. Et regardez dans les rues, vous allez voir les militaires, ou vous allez voir, par exemple, dans un restaurant, les chefs de rang, ils ne sont pas habillés de la même façon. Nous, chez les militaires et les policiers, par exemple, chacun porte son grade. Imaginez que le grade et le rang dans une tribu maori s'inscrivent sur votre visage. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est quelque chose d'indélébile, vous ne pourrez pas revenir en arrière, et c'est aussi quelque chose que vous portez jour et nuit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement en devoir dans la journée, vous n'avez pas de jour de repos, vous n'avez pas de jour de vacances. Quand vous êtes tatoué sur le visage, vous êtes le chef de tribu, vous êtes l'orateur, vous êtes l'historien, vous êtes le tatoueur, le constructeur, et vous devez répondre de ce rang durant toute votre vie. Et vous continuez à être tatoué jusqu'à ce que le visage entier soit recouvert de tatouages. C'est toute une vie, c'est une vie d'engagement. Et moi, cette notion d'engagement, je trouve, est très forte, elle est très touchante, parce que si vous regardez, Bruno, dans nos sociétés, l'engagement, il est souvent très passager. En Nouvelle-Zélande, chez les Maoris, c'est toute une vie d'engagement.
Pour la vie.
Voilà.
Dans votre livre, vous écrivez « Le tatouage est un cri ». C'est une manière, en fait, pour les Maoris, qui représentent 15% de la population aujourd'hui, de rappeler la blessure de la colonisation. Est-ce que vous diriez que cette histoire des Maoris ressemble au fond à celle des peaux rouges en Amérique?
Celle des peaux rouges en Amérique, absolument. Celle des aborigènes en Australie. On pourrait parler aussi du Brésil. On pourrait aller plus loin en Asie. Bien sûr, toutes ces communautés premières, Claude Lévi-Strauss en a longuement parlé, mais toutes ces communautés qui sont à l'origine des arts premiers, des communautés qui ont été martyrisées, qui ont été oubliées, qui ont été parquées, parce que notre société occidentale considère que les valeurs de l'Occident sont les meilleures, sont celles qui doivent avoir cours un peu partout dans le monde. On oublie que des tribus, des sociétés, que des peuples ont des choses à nous apprendre. Et moi, je peux vous dire, Bruno, en ayant vécu un peu là-bas en Nouvelle-Zélande, dans une tribu, j'en suis ressorti, alors j'espère meilleur, mais j'en suis ressorti différent de ce que j'étais entré la première fois. J'étais très, très ému de faire partie de cette tribu, d'être intégré et de pouvoir vivre avec eux des rites et des moments privilégiés qui changent un homme.
Pouvez-vous justement nous parler un peu de cette rencontre? Parce que vous avez intégré une tribu par l'intermédiaire d'un homme, Waka Reed, qui est un ancien troisième ligne centre, c'est-à-dire le fameux numéro 8, celui qui charge en direction de la défense adverse, si je ne dis pas de bêtises. Et il vous a initié en quelque sorte.
Mais d'abord, il a voulu voir ce que j'étais venu faire.
Ce que vous aviez dans le ventre aussi.
Il a voulu voir qui j'étais, ce que je venais chercher.
Comment vous l'avez rencontré?
Vous savez, j'y suis allé 7 fois, j'y suis resté très longtemps à chaque fois. C'est de découverte en découverte, ce sont des moments, une personne vous en fait rencontrer une autre, et ensuite une autre, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on vous teste, on veut savoir qui vous êtes, ce que vous venez faire, est-ce que vous êtes là pour le folklore, est-ce que c'est vraiment quelque chose au fond de vous, qui une quête véritablement personnelle. Et petit à petit, on vous fait confiance. Ça ne s'est pas fait la première fois, j'y suis allé la première fois en 1989, Là, je n'ai vu que du rugby. Quand j'y suis revenu, c'était en 2007, j'ai vu autre chose que du rugby. Je suis entré dans une tribu et donc tout ce cheminement, c'est le mien, c'est un cheminement personnel parce que sans doute que les valeurs des tribus maoris me touchent, sont des choses qui font écho en moi et je pense que ça a été senti par mes interlocuteurs et c'est pour ça qu'ils m'ont offert le privilège de les rejoindre dans cette tribu au cœur des forêts.
De 89 à 2007, près de 20 ans ont passé entre votre premier et votre dernier voyage. Qu'est-ce qui a changé en Nouvelle-Zélande, d'un point de vue évidemment rugbystique, mais aussi plus général dans la société?
Écoutez, la société n'est pas plus violente que Londres. Alors, elle n'est pas plus violente que certaines émeutes qu'on peut voir à Los Angeles ou dans les quartiers londoniens. Non, ce qui a changé, c'est effectivement les centres-villes qui sont un petit peu plus peuplés. Mais vous savez, la Nouvelle-Zélande, ce ne sont que 4 millions d'habitants. La première fois que je suis allé, il y avait 3 millions d'eux, 800 000 personnes en plus, principalement des Chinois, une immigration venue d'Asie. Pour moi, c'est le plus gros changement de voir des idéogrammes sur les principales avenues d'Auckland. Mais en dehors de ça, il y a toujours autant de moutons, il y en a 40 millions, il y a toujours autant de terrains de rugby, il y a toujours autant de gamins qui jouent. Davantage de Polynésiens, hein, voilà, mais c'est une évolution de la société comme on a pu la voir en France dans les années 80, avec l'immigration venant du Maghreb et de l'Afrique. Voilà, on est dans des schémas identiques, mais la Nouvelle-Zélande, c'est d'abord la nature, et la nature ne change pas tant que ça. Je suis allé dans le nord du pays la première fois, j'y suis retourné 20 ans plus tard, et rien n'avait changé. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce pays.
Et vous avez cherché à remonter à la source de la civilisation maori. Et vous vous êtes rendu à Rotorua, qui est l'épicentre de la culture maori. Mais je crois que ça fait partie de vos déceptions de voyage. Pourquoi?
Parce que c'est comme si on voulait découvrir les États-Unis avec Euro Disney, quoi.
En somme, c'est le tourisme à gogo.
À gogo, peut-être pas, mais disons que c'est un tourisme qui ne reflète pas ce qu'est la culture maori. Mais je vais vous dire, c'est fait exprès. Parce que ça évite les touristes, ça évite aux touristes d'aller fouiner un peu trop dans les lieux sacrés des Maoris, de s'enfoncer dans les forêts, d'aller les embêter dans leur village, de chercher à tout prix la photo au cœur du Marae. Ils ont cette espèce de Maoriland à Rotorua qui est très bien. Vous avez une sorte de voyage au cœur, voyage rapide, hein, parce qu'on est dans une société où tout doit être rapide. Hein, on parle du fast-food, voilà. Donc là, c'est du fast-tourisme. Voilà, ça donne un aperçu de la civilisation Maori. Je pense que ça ne décevrait pas le voyageur qui arrive en Nouvelle-Zélande pour la première fois. Mais quelqu'un qui a déjà passé plusieurs mois en Nouvelle-Zélande et en tout cas qui a effectué plusieurs voyages, c'est pas quelque chose d'intéressant. C'est justement à la limite un tremplin qui permet d'aller plus loin et plus profondément.
Vers la fin du livre, vous dites par l'intermédiaire, vous rapportez les propos de Waka Reed, votre ami qui vous a donc emmené et initié dans son village. Il vous dit « Tu n'es plus un Pakeha, mais un Manuhiri, un visiteur bienvenu ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'on reste toujours... Alors, Pakeha, pour eux, quelque part, c'est l'envahisseur. C'est le blanc qui comprend rien. C'est l'anglo-saxon qui reste ancré dans ses certitudes et qui ne s'ouvre pas au monde étranger qui l'entoure. Ce sont les Anglais qui sont venus coloniser le pays du long nuage blanc et qui ont mis les Maoris à genoux. Voilà, ça, c'est le Pakeha. C'est l'autre.
Ce que vous n'êtes plus.
Eh bien, écoutez, j'étais heureux. Alors, on reste toujours un visiteur, hein, vous l'avez bien compris. On reste toujours quelqu'un qui vient visiter, qui vient voir, qui vient se rendre compte. Hein. Je ne suis pas Maori. Mais bienvenue, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que bienvenue, on vous prend dans les bras, on vous touche, on vous parle, on vous fait le fameux salut Maori, qui est quelque chose d'assez fort et puissant. Et puis, bienvenue, ça veut dire que voilà, on a l'occasion de pouvoir vaquer en liberté, de pouvoir vivre auprès des Maoris leur vie de tous les jours. Et voilà, visiteur bienvenu, pour moi, c'était ce que j'étais venu chercher, quoi.
Pour terminer, j'aimerais vous demander évidemment un pronostic pour la Coupe du Monde de rugby.
Écoutez, en tant que journaliste à l'équipe, déjà, c'est difficile de faire un pronostic parce que on a plutôt comme règle d'éviter ça, puisque ça y est, Paris en ligne aujourd'hui, donc tout le monde nous appelle, qu'est-ce que vous en pensez. Donc je me refuse toujours à donner un pronostic. En plus, je suis un très mauvais pronostiqueur et il va se passer tellement de choses dans cette Coupe du Monde. Il peut pleuvoir, les terrains vont être gras, il n'est pas dit que le jeu soit si spectaculaire que ça. Après tout, on n'en sait rien. On arrive dans une période qui est le printemps néo-zélandais où vous pouvez avoir les quatre saisons dans la même journée. On ne sait pas vraiment ce que vaut cette équipe de France tant qu'elle n'aura pas joué les All Blacks à la fin du mois de septembre. Franchement, sur ce que j'ai vu sur ces 2-3 dernières années, moi je mettrais une petite pièce sur l'Australie.
Merci Richard Esco de nous avoir fait découvrir ce pays lointain. Merci aussi à Steve Dineka aux commandes de cette émission. Richard Esco, je rappelle le titre de votre livre, Rugbyland, qui paraît aux éditions Philippe Ray. Et puis pour ceux qui voudraient connaître la vie et l'œuvre de joueurs célèbres, je renvoie à un autre de vos livres, Portrait légendaire du rugby, c'est paru chez Tana Éditions. La Coupe du Monde, je vous le rappelle, se déroule du 9 septembre au 23 octobre 2011. Et le 15 de France entrera dans la compétition le 10 septembre contre le Japon et affrontera, vous venez d'en parler, les All Blacks le 24. La France et la Nouvelle-Zélande sont en effet dans la même poule. Je vous signale enfin qu'une exposition sur les Maoris aura lieu au musée du Quai Branly à Paris à partir du 4 octobre 2011. Au revoir et merci.